Bonsoir, bienvenue. Donc, quatrième séance de ce cours, si on compte la séance introductive, autour des langages et des techniques de la haute croissance, un terme dont je dirais deux mots. Je vous rappelle que pour que vous notiez cette date anomale sur votre calendrier à nouveau, si vous ne l'aviez fait la dernière fois, lundi 23, une journée de discussion avec des historiens et des architectes autour des thèmes qui ont été ceux du pavillon de la France à la Biennale de Venise, et bien au-delà, un élargissement de la conversation avec une perspective européenne. Aujourd'hui donc, langage et technique de la haute croissance, et je commencerai par un post-scriptum relatif au cours de la semaine dernière. Je voudrais lire un petit texte de l'excellent Jean-Christophe Bailly que j'avais omis de citer la semaine dernière. Bailly, dans son livre « Le dépaysement », comme vous le savez sans doute, « Un voyage dans la France contemporaine », écrit, je cite, « C'est donc une ville qui a les traits de l'époque de la Reconstruction. Assez modeste en général, ce style a pour première caractéristique celle de donner aux rues et aux maisons qui suivent les lignes du plan existant avant les destructions une allure de maquette agrandie et aujourd'hui quelque peu patinée et vieillie. On a l'impression de circuler dans les dessins d'architectes et d'urbanistes, dans des dessins d'architectes et d'urbanistes consciencieux, désireux de s'effacer derrière une idée de ville qui était à la fois un héritage et un condensé, une sorte de digest, se souvenant du passé mais faiblement tourné vers l'avenir. » Je crois que c'est une des plus belles évocations de cette médiocrité dominante de la France de la Reconstruction. Et je suis un peu injuste en citant Bailly à l'appui d'une image de Royan, qui est sans doute, comme le Havre, comme le reconnaît d'ailleurs Bailly, une exception à cette règle. Alors, je voudrais aujourd'hui parler des chantiers qui s'engagent alors que la Reconstruction est largement définie, même si elle n'est pas achevée, pendant un cycle de deux décennies, de la fin des années 40, disons, lorsque les traumatismes de la guerre commencent à s'effacer jusqu'à la fin des années 60. Ce cycle ne correspond pas tout à fait avec les tristement fameuses ou les trop fameuses 30 glorieuses de Jean Fourastier, qui, je vous le rappelle, distingue les années séparant 1946 de 1975. L'hypothèse que je ferai ici est celle d'une architecture de la haute croissance en utilisant un terme qui est habituellement réservé au Japon de l'après-guerre. Il correspond, à mon sens, aux années séparant la fin de la période préparatoire de la reconstruction de la période pleine de la politique des grands ensembles. C'est une phase, cette haute croissance, qui correspond à une modernisation intense de l'économie et du territoire français, dont je montrerai un seul exemple très architectural, qui est la centrale électrique de Donzère-Mondragon, construite au début des années 50 par Théo Sardenal, un des élèves les plus actifs de Perret. Vous voyez que cette centrale est une espèce de Versailles perretien barrant le canal latéral au Rhône de ce grand projet français de l'après-guerre. Si on cherchait un seuil explicite définissant le début de cette période de la haute croissance en architecture, cela pourrait être le concours organisé en 1951 par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme pour la construction d'un quartier d'habitation à Strasbourg. La rupture que marquant dans l'architecture l'épisode de 68 n'étant pas moins marquante. Elle se dessinera d'ailleurs, j'en parlerai peut-être plus la semaine prochaine, dès le milieu de la décennie des années 60, qui correspond aussi, on le sait, à la mise au point du schéma directeur du schéma directeur d'aménagement de la région parisienne, qui est un véritable seuil en matière d'urbanisme. La réorganisation des industries du bâtiment, la création d'un puissant système de financement public, qui sont des caractéristiques fondamentales de la France, se poursuivent avec une politique centralisée, dont sans doute les seuls équivalents se trouvent à l'est de ce rideau de fer dont Winston Churchill, dans son célèbre discours de Fulton, constate l'existence dès 1946. Comme je le disais la semaine dernière, la nouvelle hiérarchie professionnelle créé en 40, puis confirmé en 44 avec ses urbanistes et ses architectes en chef, se manifeste aussi dans les extensions de villes. L'ampleur assez nouvelle de la production de logements que commence à orchestrer le ministère ne s'accompagne pas d'une transformation substantielle de la pédagogie de l'École des Beaux-Arts, dont le décalage avec la réalité devient de plus en plus patent aux yeux de ses élèves. Et ici, vous voyez sur l'écran deux esquisses d'admission de 1948 qui montrent bien à la fois les horizons formels nostalgiques de l'école et qui ne rendent pas compte du fait que l'école s'intéresse peu à ce qui est l'essentiel de la production française dans cette période. Si les ensembles de logements en termes quantitatifs se taillent la part du lion dans la production des années 50 et 60, l'habitation collective n'est pas la seule sphère dans laquelle l'architecture opère, évidemment. Et il est important de voir aussi une des caractéristiques de la situation française que je vais définir mieux en faisant un petit détour par l'Italie, qui est les difficultés de l'architecture française après ce que Ernesto Rogers, le directeur de la revue Casabella Continuità à partir de 1953, après ce que Rogers appelle la génération des maîtres, Wright, Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier. Rogers écrit « La difficulté maintenant est de ne pas tomber dans un éclectisme vague ni dans un compromis médiocre. » Il faut se rendre compte de quelle lutte et du nombre de luttes dont est faite la biographie de ces grands maîtres. Et c'est là, sans doute, qu'une grande différence apparaît entre la France et l'Italie. L'Italie est dominée par des figures qui appartiennent à ce que l'on pourrait appeler la deuxième génération des modernes, Ernesto Rogers à Milan, Giuseppe Samona à la tête de l'école d'architecture de Venise, Ludovico Quaroni romain qui enseigne longtemps à Florence. Sont trois figures d'une culture architecturale vivace, critique, rénovant les institutions et notamment l'enseignement et intervenant de manière réflexive sur le bilan de cette génération des grands maîtres. Si l'on s'intéresse à leurs contemporains français, ici je prendrai un couple qui se défait après la guerre d'ailleurs, celui d'Eugène Baudouin et Marcel Lotz, et une des figures les plus importantes de l'urbanisme et de l'architecture parisienne des années 50 et du début des années 60, Raymond Lopez, contrairement à Samona, Rogers et Quaroni, ce sont des architectes muets dans cette période. Ils ont des positions de force, Baudouin dans l'enseignement, Lotz très actif dans la pratique, Lopez dans l'urbanisme parisien, ce sont des grands muets. Ils n'ont pas de discours critique, ils ne produisent pas les conditions et encore moins les conditions de leur réflexion et les transmettent, les commentent encore moins pour leurs étudiants. Il y a donc un décalage, une marginalisation, je dirais, des architectes, d'architectes à succès, mais qui n'ont nul besoin de lutter, comme le disait Rogers, pour conquérir l'hégémonie, pour produire un discours leur permettant d'affirmer leur position, puisque leur position, ils l'ont déjà. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réflexion et de publication, et j'évoquerai au passage, en haut à gauche, le grand livre en cinq volumes d'André Lursa, « Forme, composition et loi d'harmonie », qui est une tentative un peu assez pathétique, assez émouvante, pour faire tenir en cinq volumes une théorie de l'architecture élaborée en réponse au débat qui avait commencé dans la Russie des années 30. Lursa est revenu de Russie avec le projet d'une revanche livresque sur ses frustrations professionnelles, et il a écrit ce livre pendant la guerre. La guerre est une grande période pour la lecture et l'écriture, c'en est un exemple. Il est intéressant de voir que ce qui intéresse Lursa, c'est pour une part une théorie sociologisante d'un marxisme un peu rustique quant à l'architecture, fondée sur la différenciation en classique dans le discours du réalisme socialiste entre la forme et le contenu, mais c'est aussi un travail très précis sur la question des proportions, sur la question de la composition, sur les systèmes axiaux, et une bonne, je dirais, utilisation intéressante des concepts de la psychologie de la forme. Je confronte à ce livre le petit livre carré de Le Corbusier et le Modular pour montrer qu'il y a une sorte d'obsession, ou en tout cas de préoccupation transversale pour les questions de la proportion chez beaucoup d'architectes dans cette après-guerre. Le Corbusier réfléchit sur le Modular, comme vous le savez, après avoir en quelque sorte essayé de répondre aux sollicitations de la période de Vichy quant à la normalisation et à la standardisation, et publie ce livre qui sera suivi par un second volume sur son utilisation. Et j'évoque aussi je présente aussi une petite plaquette qui, à mon avis, est assez remarquable, d'Alfred Neumann. Neumann est, comme Sarnal et d'autres dont je parlerai plus tard, un élève de Perret qui est allé pratiquer l'architecture en Israël, où il aura une très grande influence, notamment au Technion de Haïfa, et il publie en 1956 une réflexion, lui aussi, un système de proportion. Donc les architectes, au moment où la production atteint des seuils quantitatifs nouveaux, tentent, en quelque sorte de façon assez désespérée, de maîtriser les proportions de ce qui devient un phénomène industriel. Dans le même temps, les organes principaux de l'architecture française sont bien pâles, sinon très, je dirais, limités intellectuellement dans le concert européen. Je confronterai ce que publie l'architecture d'aujourd'hui au milieu des années 50. Ce sont ces projets modernes qui inspirent à la Casabella de Rogers ses remarques contre les formalistes. Et dans une querelle assez fameuse et assez pittoresque, l'architecture d'aujourd'hui répond en stigmatisant sous le titre Casabella Casus Belli des édifices comme la Torre Velasca de Rogers ou la Bottega d'Erasmo di Isola e Gabetti à Turin. Intéressant de noter que la Torre Velasca de Rogers et de ses associés est un projet qui se nourrit d'une réflexion sur l'œuvre de Perret. Rogers publie dans ces années-là une petite monographie sur Perret, la seule publiée alors en dehors de la France, petite par son format mais importante par son sens, et s'efforce dans ce bâtiment, je ne vous en montre pas plus, d'orchestrer la rencontre entre l'ossature et la tectonique de Perret et les formes des palazzi de la Milan médiévale. Donc un débat dans lequel on voit bien que l'architecture d'aujourd'hui est incapable, en tout cas ses rédacteurs sont incapables de saisir la finesse et l'épaisseur et la finesse à la fois de la réflexion des Italiens. Les Italiens qui clôront le débat, toujours à moitié en latin, si vis pacem demain, parabellum aujourd'hui, en réfutant les critiques de l'architecture d'aujourd'hui. Dans cette période, d'autres débats parallèles se développent. J'évoquerai celui qui oppose Rainer Banham, le critique britannique, et Rogers. L'architecture d'aujourd'hui insiste sur avoir dans l'architecture de la Torre Velasca, que je vous montrais auparavant, je cite, la laideur, la boursouflure baroque, l'emphase, la fausse originalité, l'étrange et l'insolite de l'architecture italienne. Alors qu'au fond, ce que Rogers essaye de faire, et ce qui échappe complètement aux Français, c'est de proposer une réflexion sur ce qu'il appelle les préesistenze ambientali, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler en termes un peu triviaux, le contexte, le cadre historique dans lequel, et urbain dans lequel s'inscrit l'architecture. Alors, la véritable surprise va venir d'ailleurs, mais avant d'en parler, je voudrais évoquer un épisode extrêmement important qui marque la rencontre entre l'architecture moderne et les grandes institutions. C'est l'épisode de l'UNESCO à Paris. Le palais est achevé en 1959, après qu'un premier projet extrêmement intéressant mais plus banal ait été fait à la porte Maillot que vous voyez à gauche. Le bâtiment marque incontestablement une orientation nouvelle pour l'architecture en France, jouant sur une dialectique intéressante entre le Y du bâtiment des bureaux et ses pilotis corbuséens et la boîte en béton plissée, en feuilles de béton plissées ou pliées que Nervi conçoit pour la salle des conférences. Le Corbusier, nouvelle frustration après celle de la Société des Nations ou des Nations Unies à New York, n'a pas eu la commande qui aurait pu apparemment lui revenir parce que les Américains lui en voulaient d'avoir monté une campagne précisément contre le projet réalisé de Wallace Harrison pour les Nations Unies. Le Corbusier, j'en dis deux mots, mais je n'en abuserai pas aujourd'hui, surprend tous ses partisans avec deux bâtiments qui n'ont rien à voir avec les prismes blancs des années 20, qui ont pour les maisons Jaoul en bas un certain rapport avec des maisons dans lesquelles la brique, la pierre, les textures apparaissaient dans les années 30. Je pense à la maison de Mandreau. Il reprend dans la maison Jaoul l'observation de ce que j'appellerais le vernaculaire des faubourgs de Paris, que l'on voyait déjà avec les maisons blanches des années 20, et cette fois-ci en utilisant la brique. Il surprend encore plus lors de l'inauguration de la chapelle de Ronchamp en 1955, d'autant plus que ce bâtiment offre une perspective sculpturale sur l'architecture qui renouvelle tout à fait sa propre démarche. Je dirais que si le Le Corbusier des années 20 était opéré à la charnière de la peinture et de l'architecture, c'est ici à la charnière de la sculpture qu'il pratique depuis, bon, par intermédiaire depuis les années 40, que ce projet se situe, tout en utilisant énormément de sources du répertoire que Le Corbusier s'est constitué, de cette espèce de mémoire cumulative qu'il s'est constitué depuis longtemps. Il y a un corbusianisme latent dans l'architecture française, et je voudrais en dire quelques mots. Un lexique typologique, mais aussi tectonique, qui se diffuse. C'est le cas dans l'œuvre de Voganski, qui a été le chef d'agence de Le Corbusier pendant 10 ans, avec son hôpital Saint-Antoine. C'est le cas aussi avec certaines de ses maisons, notamment la jolie maison de Saint-Rémy-les-Chevreuse, qu'il construit avec son épouse Martha Pan, sculpteur tout à fait intéressant et dans une collaboration qu'il faudrait éclairer. Par ailleurs, le langage orthogonal fixé depuis à peu près 30 ans par Perret est décliné par beaucoup de ses disciples. Je n'aurai pas le temps de vous montrer les projets de Denis Honegger aux yeux de l'historien canadien Peter Collins, le disciple le plus distingué de Perret. J'évoquerai le travail de Lagneau avec la Maison de la Culture du Havre, qui achève la reconstruction du Havre et qui est un bâtiment intéressant parce qu'il est à la fois, il réalise à la fois l'idéal de Perret, qui était celui de l'abri souverain, du grand édifice abritant les activités les plus diverses. Dans le même temps, il s'écarte de l'orthodoxie de l'ossature de béton et explore de nouveaux matériaux et de nouvelles stratégies d'éclairage. C'est donc un bâtiment tout à fait intéressant et bien plus libre par rapport à Perret que ne le sont les bâtiments construits par les Perretiens comme Carantinos en Grèce ou Antoine Tabet à Beyrouth. Mais sans conteste, la figure qui propose le langage le plus adapté à ce que j'appellerais la culture technique et à l'expérience industrielle de ces années de la haute croissance, c'est Jean Prouvé, dont la production se dissémine au travers de composants utilisés par beaucoup d'architectes, bien plus que par les édifices dont il conçoit la totalité et qui finalement ont beaucoup moins de succès. Le travail de Prouvé, ici vous voyez à gauche ce mur cinématique du Square Mozart avec ses volets coulissants et basculants. À droite, le pavillon du centenaire de l'aluminium qui a été reconstruit il y a quelques années. Le travail de Prouvé est analysé avec grande attention, par exemple, et j'y reviens, par la Casabelle, la Continuità de Rogers, qui finalement a un regard beaucoup plus lucide sur lui que ne l'ont les critiques français, à l'exception peut-être de Maurice Bessel dans les années 60 et bien plus tard d'Hubert d'Amiche quand il verra dans le travail de prouver, je le cite, le parti pris du détail. Un exemple, le designer italien Marco Zanusso voit dans le travail de prouvé une promesse esthétique autant que technique. Je le cite. L'expérience et les recherches de prouvé nous indiquent que l'industrialisation, c'est-à-dire le contact de l'architecte avec le monde de la machine et de la production industrielle, est moins un problème technique qu'avant tout et surtout l'invention d'une morphologie nouvelle, complément indispensable d'un nouveau langage expressif. Donc une morphologie nouvelle, on le voit dans les innombrables variations des maisons légères de Jean Prouvé, ces maisons avec, pour beaucoup d'entre elles, un support central en forme de compas, qui est une forme qu'il a inventée en 1939-1940. C'est sur cette image, sur ce compas que s'ouvre la nouvelle série de l'architecture d'aujourd'hui après 1944. Parmi ces maisons légères et transportables, certains sont authentiquement nomades et voyagent jusqu'en Afrique. C'est le cas de la maison tropicale à droite, variante des maisons standards de Prouvé adaptées au climat chaud par un ingénieux système de ventilation passive. Les maisons en coque sont aussi diffusées dans quelques opérations, la plus remarquable étant celle de Meudon, que Prouvé réalise avec André Sive et son frère Henri, qui est architecte, ces maisons métalliques qui sont posées sur des supports de pierre. Et la plus héroïque de toutes ces maisons étant sans conteste celle dont il réalise un prototype pour l'abbé Pierre en 1956, montée en une journée sur les bords de Seine, et qui est particulièrement intéressante à cause de son noyau technique, à cause de son noyau qui rassemble tous les éléments humides de la maison, une sorte de synthèse comprimée, une compression presque à la César de la cuisine, de la salle de bain et des toilettes, et qui ressemble un peu, si l'on suit une analogie chère à prouver, entre la maison et l'automobile, qui ressemble un peu au moteur de l'automobile opposé à la carrosserie, qui procède presque d'un autre système industriel. Prouvé élabore des éléments extrêmement remarquables, raffinés, élégants pour les bâtiments des autres. En haut, les raidisseurs de la façade d'Orly Sud, bâtiment d'Henri Vicario, extrêmement, vous le voyez ici, qui ressemble à des pièces sculpturales lorsqu'on les regarde en coupe. Et dans le même temps, Prouvé marque d'une manière qui n'a pas encore été mesurée, mais qui va l'être grâce aux travaux de certains chercheurs, je pense notamment à Valérie Nègre, il marque une génération entière d'étudiants d'architecture et de jeunes architectes par ses cours au Conservatoire des Arts et Métiers. Et je ne peux pas m'empêcher d'y penser, d'autant que j'étais parmi les auditeurs de ces cours, comme certains ici d'ailleurs, religieusement tous les mardis, cours que Prouvé préparait extrêmement soigneusement avec des dizaines de croquis sur format 21-27, dont environ un millier sont conservés au Centre Pompidou. Ce que je retiens de ces cours de Prouvé, c'était la tentative, par contraste avec l'École des Beaux-Arts, qui se noyait dans l'auto-contemplation de la discipline architecturale. C'était le travail que faisait Prouvé pour observer les autres domaines de la technique et de la construction, notamment la construction aéronautique, vous voyez à gauche, ces dessins d'avions, la construction de matériel ferroviaire ou d'automobile, vous le voyez en haut, et dans le même temps, en observant dans le même temps des architectures qui n'avaient rien à voir avec les siennes. Prouvé invitait à la fois les utopistes comme Jona Friedman, qui venait régulièrement présenter sa ville spatiale. Prouvé, un peu en retrait, ne pouvait pas s'empêcher de sourire parfois, de rigoler un peu d'ailleurs, mais il l'invitait fidèlement. Dans le même temps, vous voyez en bas à gauche qu'il observait des bâtiments comme ceux de Niemeyer et de son ingénieur Joaquim Cardoso à Brasilia. Il avait été les voir et il en analysait la structure de façon tout à fait pertinente et attentive. Donc c'était des leçons d'observation du monde, d'observation de l'architecture au sens large et du monde, des techniques, des formes techniques. À droite, un projet que Prouvé développe dans ces années et qui malheureusement sera une impasse, c'était l'idée d'un gratte-ciel en métal creux, un projet qu'il mettra au point plus en détail avec son fidèle assistant Joseph Belmont pour l'éducation nationale, pour un projet de ministère à la Défense. Et c'est un projet qui sera à l'origine de celui de construit de Norman Foster à Hong Kong pour la Banque de Hong Kong et Shanghai, dont l'idée fondamentale, le parti fondamental d'un gratte-ciel creux vient de, de ces quelques croquis de Prouvé. Prouvé proposera aussi dans ses cours des variantes métalliques d'unités d'habitation. Bref, c'est une alternative possible qui se dessine avec lui. Mais sur le terrain, les choses se passent autrement, et ce sont les grandes figures issues de l'École des Beaux-Arts, les architectes en chef, les prix de Rome, qui réalisent les grands projets, parfois en faisant appel à Prouvé. Eugène Baudouin, je parlerai la semaine prochaine de la cité Rotterdam de Strasbourg, qui marque son retour à la grande composition, va bien plus loin avec la résidence universitaire d'Antony, 4000 logements, et sans doute 8000 chaises de Prouvé et 4000 tables qui ont fait le bonheur des antiquaires depuis. Un microcosme à Antony, constitué par une muraille discontinue de bars qui protège en quelque sorte les étudiants de la ville environnante. Une autre figure importante de la modernité de l'entre-deux-guerres, puissant comme les Baudouins à l'École des Beaux-Arts, où il est chef d'atelier, c'est Pingusson. Évidemment, on connaît la crypte de la déportation de Pingusson, construite en 1962, extrêmement tard par rapport à la fin de la guerre, les débats ayant été extrêmement complexes pour arriver à la construction de ce monument, dont le principal inspirateur a été Jean Cassou, et le réseau du souvenir. La mémoire, en effet, la mémoire de la déportation et de la guerre est une mémoire divisée, conflictuelle. D'un côté, les organisations juives qui sont les premières à construire un mémorial rue Geoffroy-Lanier. De l'autre côté, les communistes marginaux dans Paris à l'époque et qui s'efforcent de construire leurs propres mémoriaux dans la banlieue rouge et, quelque part, les gaullistes et certaines figures unitaires comme unificatrices comme Cassou. Le mémorial de Pingusson est extrêmement important parce qu'il évoque, un peu comme celui des Fossés Ardeatine à Rome, de l'équipe de Fiorentino, c'est un mémorial qui propose de retrouver ce qu'aurait été l'expérience de l'oppression et de l'enfermement par, écrit Pingusson, je le cite, une architecture repliée sur elle-même dans la puissance de la terre. Donc, parmi les prix de Rome de la génération de Baudouin, certains ont une activité extrêmement ample. Ici, le Centre national des industries et des techniques à la Défense, pour lequel Pierluigi Nervi avait dessiné un projet, vous le voyez en haut à gauche, un projet dans lequel il reprend la forme réticulée de ces hangars d'hydravions de l'entre-deux-guerres, détruits sous les bombes. Le CNIT, eh bien, c'est d'abord un ingénieur, certainement, Nicolas Esquillan. C'est les deux prix de Rome, au moins, Camelot et Zerfus. Et c'est aussi Prouvé qui réalise les façades extraordinairement diaphanes de ce bâtiment. Zerfus, après avoir été auréolé par la construction de l'UNESCO, ou en parallèle plutôt, est aussi extrêmement actif, par exemple, avec la construction de l'usine Renault de Flins dans la vallée de la Seine. Un autre grand prix, il avait été en 1958, Henri Bernard, qui avait su purger son passé pétainiste, construit pendant 10 ans la maison de la radio. Bâtiment qui inaugure une sorte de forme de stupidité programmatique des grandes institutions parisiennes, celle qui consiste à construire des tours au bord de la Seine pour y loger des archives. Cette idée d'Henri Bernard a été magnifiquement reprise par Dominique Perrault dans sa bibliothèque. Bon, à droite, un autre grand prix, Guillaume Gillet et le pavillon de la France à l'exposition de Bruxelles, réalisé avec René Sargère, qui est l'héritier de Lafaille, de Bernard Lafaille, mais qui n'est pas, sans être pour autant, un ingénieur. Sargère, contrairement à ce que l'on pense en général, est un architecte de formation. Prouvé intervient aussi sur ce pavillon, qui est une sorte de double hangar en treillis métallique, vous le voyez ici, avec une couverture en câble et une sorte de flèche dont le porte-à-faux est extrêmement rhétorique. Donc on voit ici comment Prouvé participe, j'insiste encore sur lui, soit des projets qui ont une certaine clarté, une certaine élégance, une certaine retenue, celui d'Esquillant, parce qu'il est conduit par une logique technique intelligente, et des projets comme celui de Gillet, qui est une sorte d'utilisation rhétorique de formes techniques bien plus gauche et bien plus périssable. On pourrait évoquer aussi d'autres prix de Rome, et c'est sur ce point que j'insiste maintenant, sur la présence, finalement, le fait que les produits de l'École des Beaux-Arts de l'entre-deux-guerres ou de l'immédiate après-guerre endossent les langages modernes de manière plus ou moins habile et plus ou moins sincère. C'est certainement sincère et habile dans le cas de Jean Dubuisson, dont je reparlerai, mais je trouve que ce grand monument qui se dresse à côté de Thionville, qui est le foyer de jeunes travailleurs de Cormontreuil, est un bel exemple d'une grande composition de Dubuisson dans laquelle une certaine finesse dans l'utilisation des composants modernes peut être rencontrée. Enfin, autre prix de Rome, Raymond Lopez, qui avait travaillé avant la guerre à Dakar et sur beaucoup de projets d'hôpitaux, participe de ce que j'appellerais la frange américanisée de la grande profession parisienne. On pourrait rattacher raccorder ou intégrer dans ce groupe, par exemple, Pierre Dufaux, auteur d'une série d'immeubles de bureaux assez intéressants à Paris et aussi auteur de l'hôtel Hilton de l'avenue de Suffren. Donc, Lopez a fait le voyage de New York, a travaillé, a observé notamment les gratte-ciel habillés en aluminium à New York. C'est ainsi qu'il revient et réalise ce bâtiment très transparent de la caisse d'allocation familiale qui a fait l'objet d'une excellente, après avoir été menacé de description, d'une très belle restauration. C'était un chantier modèle pour la construction métallique qui, dans un sens, est sans doute le plus radical, avec ceux d'Albert, dont je dirai un mot, de ceux qui s'édifient alors à Paris. S'il fallait faire une preuve de l'aggiornamento de ces deux générations de brillants élèves des Beaux-Arts, les prix de Rome, immédiatement avant, immédiatement après la guerre, on pourrait par exemple lire les délibérations du Conseil des bâtiments civils auprès du ministère de l'Instruction publique, qui met en évidence comment la haute administration de l'architecture, progressivement, fait leur place au projet moderne. Tout à fait intéressant. Il y a une très belle thèse de Tricia Meehan sur ce thème qui montre comment le noyau le plus conservateur de la profession et de ce que j'appellerais l'architecture d'État s'ouvre progressivement dans cette période. Bon, ne restons pas dans le cadre métropolitain. Je pense qu'il est utile ici d'évoquer cette espèce d'extension de la scène française que constitue l'Afrique du Nord dans cette période. Et je ne parlerai ici que du Maroc et de l'Algérie. On pourrait parler peut-être de la Tunisie, peut-être moins que dans les années 40, ou de l'Afrique noire, où une architecture assez intéressante de bâtiments publics et d'habitations se développe. Avant qu'elle ne rende assez facilement, je dirais, sa liberté à son protectorat marocain et qu'elle ne consente, après une guerre terrible, à rendre sa liberté à l'Algérie, la France y conduit des politiques extrêmement intéressantes, que ce soit des politiques d'État ou des politiques locales animées par les forces locales et des jeunes architectes locaux. Au Maroc, c'est entre 1946 et 1952 le travail de Michel Ecochard pour répondre aux attentes de la population ouvrière essentiellement d'origine musulmane, avec l'invention de systèmes d'extension horizontale, de systèmes de maisons à patio. Pourquoi ce projet il est ingénieux et il a fabriqué 50 ans ou 60 ans plus tard une urbanité tout à fait intéressante. Ces projets sont remarquables parce qu'ils se fondent sur une observation des pratiques des familles ouvrières marocaines. Et donc ils marquent un changement fondamental dans la perspective de l'architecture moderne qui cesse de s'identifier seulement aux sciences naturelles ou aux sciences physiques et qui commence à s'intéresser aux sciences sociales et à considérer qu'étudier les pratiques des habitants n'est pas inutile pour pouvoir les loger. C'est ce qui conduit, par exemple, Candilis, Woods et Bodiansky, dans le cadre et au milieu de cette trame horizontale des cochards, à essayer d'imaginer une sorte de transposition moderne des casbahs du sud marocain. C'est en tout cas comme ça que leur projet sera perçu par les jeunes architectes qui sont alors les turbulents rebelles au sein des congrès internationaux d'architecture moderne. Une opération aux carrières centrales à Casablanca, très vite modifiée par les habitants, et qui montre, qui cristallise l'idée d'une rencontre entre l'idée du grand logement collectif type unité d'habitation, la casbah du Sud, et dans le même temps, les pratiques qui ont donné naissance aux habitations à patio, puisqu'ici, ce sont en quelque sorte des habitations à patio qui sont superposées. Une autre entreprise parallèle, et qui aboutit à des formes extrêmement différentes, et celle qu'engagent les jeunes modernes algérois, de manière très, très différente à nouveau. Ici, Roland Simounet part avec son appareil photo et son carnet de croquis dans les bidonvilles algérois et essaye d'en décrire les modes d'usage sociaux. Il y a dans ses notes des aspects assez bouffons. En bas à gauche, lorsqu'il applique la grille proportionnelle du modulor aux postures corporelles des familles algériennes. C'est assez cocasse, mais pour le reste, il s'intéresse par exemple à un thème qui avait rarement été vu par les architectes s'intéressant au logement, c'est-à-dire aux variations des usages diurnes et nocturnes des mêmes espaces dans les habitations populaires. Ceci aboutira au projet réalisé de Janan El-Hassan à partir de 1954, qui est un ensemble dans lequel on trouve à la fois un écho des recherches de Le Corbusier, je pense au projet ROC de 1951, et dans le même temps, l'idée d'un ensemble étagé sur la colline, mais dans le même temps, à l'intérieur de ce bâtiment, de cet ensemble, je dirais, les dimensionnements des habitations sont directement fondés sur les relevés faits quelques mois auparavant dans les bidonvilles existants. Le travail de Simounet en Algérie est particulièrement intéressant et le cadre dans lequel il opère et les réseaux dans lesquels il s'inscrit, qui sont ceux de jeunes intellectuels algérois, ceux notamment d'Albert Camus, tout à fait favorables avant la guerre d'Algérie à l'indépendance ou en tout cas à une large autonomie de l'Algérie, et en tout cas attentif à la population algérienne. Simounet prolongera ses recherches dans un magnifique ensemble que je n'ai hélas jamais vu et dont je ne connais pas l'état aujourd'hui, qui est l'ensemble de Timgad, la nouvelle agglomération de Timgad que vous voyez à droite. À Alger toujours, un axe très différent est celui du travail de Louis Miquel qui, lui, est plus âgé que Simounet et avait été présent lorsque Le Corbusier avait réalisé son plan Obu pour Alger au début des années 30, puisque c'est lui qui en avait fait la maquette. Miquel élabore, vous le voyez ici, l'aérohabitat, qui est un immeuble extraordinairement subtil dans son accroche sur le terrain pentu des coteaux d'Alger, puisqu'il relie le niveau supérieur d'une rue, le chemin du Telemli, à son niveau inférieur, et que dans le même temps, la rue à l'étage, la rue en l'air de Le Corbusier, joue une fonction très intéressante parce qu'elle fonctionne comme cheminement piéton pour les habitants du quartier, pas simplement, qui peuvent ainsi prendre un raccourci, et pas simplement pour les habitants de l'ensemble. Donc une interprétation, si vous voulez, dans ces deux cas, Simounet et Miquel, deux interprétations tout à fait riches du travail de Le Corbusier dans cette période, ce qui rendra ce dernier extraordinairement jaloux. Un jour, Simounet raconte qu'il rendra visite à Le Corbusier en 60 pour lui montrer ses bâtiments, et que Le Corbusier lui répondra en bougonnant « De quoi vous plaignez-vous ? Vous avez réussi à faire ce qu'on m'a interdit de faire partout. » Presque mot à mot. Un autre projet magnifique, celui-ci disparu, tragiquement disparu, c'est la reconstruction d'Orléansville, renommée El Asnam après le séisme de 1957 par Jean Bossu. Jean Bossu, ancien de l'atelier Le Corbusier, et qui ici travaille autour du thème du souk moderne. C'est un très bel ensemble commercial construit avec des éléments de béton qui sera détruit malheureusement dans le tremblement de terre, suivant. Ces expériences sont importantes non seulement localement, mais elles ont une transcription, une transposition européenne, et ne serait-ce que par l'émigration de certains de leurs auteurs, Simounet et Miquel, par exemple, ou par la poursuite du travail de l'équipe de Candilis. Dernier épisode, et ce n'est pas le meilleur sur le plan d'urbanisme, c'est la reconstruction d'Agadir après le tremblement de terre de 1961. Le projet de Pierre Masse, ancien de l'équipe d'Écochard et de Chalet paysagiste, est un projet assez incompréhensible à Agadir, puisque la ville est construite sur un plateau et abandonne le rivage à des grands ensembles hôteliers. Donc c'est une ville de bord de mer qui ignore la mer. Heureusement, quelques architectes brillants y créent des édifices remarquables, et en particulier cette poste de Zévaco, qui est une méditation très intéressante sur certains éléments corbuséens. On retrouve dans ces petites dés de béton venant interrompre des fentes horizontales un thème utilisé par Le Corbusier à la Tourette. Évidemment, une utilisation très lyrique du béton brut de décoffrage. Il y a là une extension tout à fait intéressante des thèmes français. Maintenant, revenons en France et pour évoquer les rapports de l'architecture et de la politique dans cette période. Il est sans doute assez difficile de planter des drapeaux très précis sur beaucoup de bâtiments. C'est possible dans le cas de la politique des municipalités communistes et de plusieurs manières dans cette période. D'une part, une transposition assez modérée de l'idée que l'architecture du logement doit être monumentale, cette idée qui sévit en Russie, dans les pays satellites. Il y a très peu d'exemples de réalisme socialiste à la française. Curieusement, le réalisme socialiste a un effet extrêmement important en Grande-Bretagne, paradoxalement, où il aboutit à une réflexion très précise sur la question du détail, quels sont les détails qui peuvent être perçus par les habitants, quels sont les détails qui ont le potentiel pour être populaires. Rien de tout cela en France. Et deux exemples, l'exemple donc d'un ensemble monumental qui n'a de commun avec les gratte-ciels moscovites que sa petite flèche très modeste, très timide, construit par les chevaliers à Ivry, et puis l'ensemble dont l'URSA construira quelques fragments à Saint-Denis, l'idée de l'unité de quartier, qui est une forme de réponse au thème de l'unité de voisinage, l'idée du quartier équipé, mais qui a filtré au travers de l'expérience de ce que les Russes ont appelé dans cette période le Kvartal. Ceci dit, et il faudra en reparler, la mouvance communiste qui est très puissante à l'époque, tant à l'École des Beaux-Arts, où il y a beaucoup d'architectes, d'étudiants d'architecture qui sont proches du PCF, que dans une partie de la profession, dans la partie la plus jeune de la profession, il y a des formes de résistance et de conflit. L'une des figures les plus importantes étant, dans ces conflits, celle d'Anatole Kopp, jeune architecte qui a étudié aux États-Unis et qui s'oppose fortement à la ligne officielle du réalisme socialiste dans les années 50. La grande figure qui est l'URSA, qui a été l'URSA dans les années 30, explore des voies nouvelles que je voudrais mentionner très rapidement. Ici, deux de ces voies, enfin des voies nouvelles et des voies archaïques. Côté voies nouvelles, c'est un intérêt pour la matérialité de l'architecture et que transposent certaines maisons et aussi cette colonie de vacances, un intérêt pour des formes du vernaculaire parisien, pour une extension horizontale assez grande des édifices. Et dans le même temps, dans la continuité du manuel dont je parlais tout à l'heure, forme, composition et loi d'harmonie, une sorte d'obsession de la symétrie qui le conduit à réaliser des bâtiments extraordinairement rigides, comme si tant est que le rigide soit une catégorie architecturale, comme l'hôtel de ville du Blanc-Mesnil en haut à droite. L'autre grande force qui opère et qui produit un discours architectural, comme le fait le PCF au travers de ses revues, eh bien, ce sont les catholiques, et notamment les catholiques les plus avancés, les plus progressistes culturellement, regroupés autour de la revue L'Art Sacré, les pères Régamet et Couturier, qui sont à l'origine de la commande de Ronchamp et de la Tourette, avec qui Le Corbusier, calviniste, né calviniste et devenu athée, aura les rapports les plus étroits. L'Art Sacré joue un rôle très important dans cette France des années 50 en présentant à ses lecteurs, assez nombreux, par exemple, l'architecture des Allemands. L'Art Sacré est un vecteur de ce que je pourrais considérer comme une sorte de réconciliation architecturale franco-allemande. Le numéro de l'Art Sacré de 59 que vous voyez à gauche montre un bâtiment d'Émile Stéphan qui avait, pendant la guerre, réalisé des bâtiments dans le cadre de l'occupation nazie de la Lorraine. Donc l'Art Sacré a une politique étrangère qui est tout à fait remarquable et essaye notamment de donner comme modèle à ses lecteurs qui construisent des églises catholiques les églises protestantes de Bartning en Allemagne. Il y a quelques projets radicaux marquant la rencontre entre la recherche technologique et l'architecture, en particulier cette basilique souterraine de Lourdes, qui est construite avant tout par, enfin, qui est avant tout une idée de Freycinet, ou à partie structurelle de Freycinet, mis en forme par Vago, le donné élève de Perret comme Vago, et qui avait écrit en 1945 un des rares livres d'architectes à proposer un programme pour la reconstruction, et Pinsard, qui lui était un élève de Lursa. Donc vous voyez ces formes de transmission d'une génération à l'autre qui sont tout à fait intéressantes. Une des questions qu'aborde l'architecture religieuse, et dont je vais dire un mot maintenant, c'est celle de la synthèse des arts. Beaucoup d'églises donnent l'occasion à des artistes de coopérer avec leurs architectes. Ainsi, Lursa collabore-t-il avec son frère tapissier et peintre à Maubeuge, et ici, sur le plateau d'Assy, Notre-Dame de Toute-Grâce est un véritable manifeste choral. Lursa, à nouveau, notamment dans la coupole que vous voyez en haut, mais aussi Rouault, Léger, Bazaine, et finalement, c'est, comme vous le voyez sur l'image de droite, la contribution des artistes qui donne sa valeur à cette architecture d'un régionalisme moderne un peu pâteau. Il y a aussi des contributions directes d'artistes comme Matisse, par exemple, avance. Alors, cette architecture religieuse, elle permet d'évoquer un des problèmes très notables. Un des enjeux tout à fait importants de l'architecture française dans cette période, c'est la recherche de ce que Le Corbusier appellera la synthèse des arts majeurs. Ici, il propose en 1950 à la Porte Maillot un pavillon dans lequel les arts seraient appelés à se rencontrer. C'est la première véritable formulation d'un type d'édifice qu'il réalisera à Zurich avec le pavillon de Heidi Weber. Mais la campagne va bien au-delà de Le Corbusier. L'architecture d'aujourd'hui lance une association pour une synthèse des arts pilotée par André Bloch. Le Corbusier lui-même pratique tout seul, ce que j'appellerais une one-man synthèse, si l'on peut utiliser cet anglicisme hybride dans ses murs, Le Corbusier propose la synthèse des, le thème de la synthèse des arts pour se différencier des autres architectes qui sont incapables de pratiquer les arts que lui-même, comme sculpture, architecture, émail, vitrail, etc., que lui sait pratiquer. Et donc, il a une visée, je ne dirais pas perverse, mais une visée hégémonique quand il le fait. Ça n'est pas le cas des autres, de ceux qui, appuyés par Eugène Claudius Petit, le ministre de l'Art, Construction et de l'Urbanisme, conduit par Bloch, crée, par exemple, dans le Salon des réalités nouvelles, une salle espace. L'association qui se crée sous le titre Groupe Espace, regroupant ainsi des peintres comme Gorin et Vasarely, des sculpteurs comme Schoeffer, et lancera toute une série de manifestations, une exposition en plein air à Biot en 1954, elle participe la même année à la Triennale de Milan. Peu d'illustrations de son activité concrète sur le terrain, j'en montrerai deux qui ne sont convaincantes vraiment ni l'une ni l'autre. À gauche, petite maison construite par Nelson à Sceaux, avec la faille. Donc, vous voyez que c'est une maison construite sous une voûte mince en ciment. Ça, c'est la faille. Paul Nelson fait le projet et Léger choisit la couleur des carrés. Bon, c'est assez modeste, mais malgré tout, c'est un effort d'œuvre chorale, ingénieur, architecte, artiste. À droite, je n'ai malheureusement que cette image extérieure de Flins, de l'usine de Flins, de Zerfus, où il invite Jean Gorin et Félix Delmarle à travailler avec lui. Donc il y a une mise en pratique de cette synthèse et un débat qui s'étend. Les membres du groupe Espace et de ses associations invitent par exemple Gropius à participer à la discussion. Donc voici une piste qui me semble assez importante. La deuxième, et je dirais la dernière, ou presque, c'est celle de l'appel des travaux publics, et donc, je dirais, d'une nouvelle formulation de ce que Gideon avait appelé, vous vous en souvenez, le tempérament constructif de l'architecture française. Les zones de contact entre architectes et ingénieurs, notamment autour des grands projets de la modernisation, des projets liés au transport, des projets liés à la recherche scientifique ou à la circulation générale. Certains grands projets de cette période étaient déjà inscrits dans le programme de Vichy. C'est le cas de l'aéroport de Marignane, où ces hangars en béton précontraint d'Esquillan avaient été dessinés pendant la guerre. En revanche, le programme de l'aménagement du Rhône, dont j'ai parlé au début, est un programme nouveau. Un autre programme très intéressant dans lequel on retrouve, oui, deux mots sur ces hangars, ils sont tout à fait remarquables par leur coque. C'est le principe ce sont des coques qui sont en fait des sections de tores et qui sont juxtaposées pour créer ces très grandes voûtes. Ces voûtes seront réassemblées sur un plan triangulaire pour former le CNIT à la Défense. Ici, un ensemble très important, une des rares grandes compositions monumentales qui ne soit pas une composition de la reconstruction et qui est au service d'un des grands projets de la 4e République naissante, la création de la recherche atomique avec comme horizon encore caché celui de la fabrication d'une bombe, un projet qui aboutira sous la 5e République. C'est Perret qui est invité à faire le projet après maintes péripéties. Et vous voyez ici le plan masse de ce campus nucléaire. Perret dira à propos de dans une note à propos de ce commissariat à l'énergie atomique, je cite, la quête méthodique des vérités qui s'effectue dans les laboratoires géants et dans les bureaux des savants peut être, dit-il, témoigné en façade par l'architecture de béton. Je n'ai pas compris vraiment comment, et je devrais regarder de plus près ce bâtiment pour voir comment la structure, et notamment ce qu'on appelle la tectonique, la transposition dans le volume extérieur du bâtiment des efforts qui s'effectuent à l'intérieur, à part des efforts non seulement statiques, mais aussi des efforts manteau. Donc, si on suit Perret, je n'ai pas encore réussi à percer ce mystère. D'autres chantiers extrêmement intéressants, c'est participe de l'équipement en infrastructure du pays ou de son rééquipement. Ce sont les deux douzaines de rotondes à locomotives que la FAI construit à partir d'un prototype créé à Avignon en 1946. Ce sont aussi d'étranges édifices comme ce château d'eau en haut et marché que la FAI construit avec Gillet. On avait vu tout à l'heure le pavillon de Bruxelles où Gillet travaillait avec Sargère, héritier de Lafarge. Donc il y a, à côté de la synthèse des arts et de la recherche de la synthèse des arts, la recherche d'une autre synthèse qui est celle d'une sorte de synthèse constructive entre le travail de l'ingénieur et le travail de l'architecte et que l'on retrouverait dans beaucoup de bâtiments publics, dans beaucoup de bâtiments publics de cette période. Il y a des objets héroïques pour lesquels les architectes ne sont pas extraordinairement mobilisés, tel le pont de Tancarville, qui est un des, avec le paquebot France, un des grands objets fétiches de, marquant la transition de la France de la Reconstruction vers une France plus optimiste, cette France de la haute croissance. Il y a des objets techniques qui sont à la fois ingénieux et élégants, la DS19 de Citroën, avec à la fois ses formes nouvelles et dans le même temps ses systèmes hydropneumatiques et autres particulièrement intelligents. La Caravelle, qui est l'un des tout premiers jets à être fiable et à pouvoir être effectivement mis en opération. Et je crois que ce sont là les objets qui inspirent certains concepteurs, qui inspirent Prouvé, je l'ai dit. Dans le domaine de l'architecture, celui qui sans doute s'efforce le plus précisément de répondre à l'attente que génère cette nouvelle culture technique, c'est Édouard Albert. Et ce n'est sans doute pas un hasard si son premier édifice marquant est construit à Orly et s'oppose très avantageusement à l'aérogare Orly-Sud d'Henri Vicario, même si Prouvé a travaillé sur la façade de Vicario. Ce centre administratif pour Air France, qui est un bâtiment assez petit, que l'on peut toujours voir aujourd'hui, mais il semble un peu petit, perdu dans les bretelles d'autoroute aujourd'hui. C'est un bâtiment qui a évidemment un aspect assez japonisant au travers de ses ossatures et de ses remplissages légers. C'est un très joli bâtiment dans lequel la structure est en quelque sorte mise visuellement à l'épreuve. Autre bâtiment extrêmement intéressant d'Albert et qui ouvrait une voie qui n'a pas été totalement poursuivie dans l'architecture parisienne, c'était cet aménagement pour, je crois, la Caisse d'Épargne, en tout cas pour un organisme financier, rue Jouffroy, où la façade de métal retrouve le gabarit post-haussmannien, même, je dirais, le gabarit du bâtiment des années 30 ou 50 à côté, un peu plus haut que l'haussmannien strict, et englobe des fragments conservés de l'hôtel particulier de Gustave Eiffel. Donc l'idée d'une architecture qui s'inscrirait dans les gabarits parisiens et qui serait technologiquement différente. Sans doute un exemple à méditer à l'heure des discussions sur la façade de Sanaa, rue de Rivoli. Enfin, le chef-d'œuvre d'Albert, c'est sans doute le gratte-ciel Croulebarbe à Paris, qui est un projet remarquable à bien des égards, remarquable par la clarté de son système structurel, ses planchers de béton épais visibles en façade et les ossatures tubulaires en acier remplies de béton. C'est aussi un projet urbain et c'est son principal mérite. C'est un bâtiment, c'est sans doute ce qui l'a rendu acceptable car il crevait fortement le plafond des hauteurs parisiens, mais il le crevait beaucoup moins vu depuis le côté arrière qui est celui de la place d'Italie. Et l'idée d'Albert ayant été de raccorder ce niveau ouvert ici, cette espèce de grand préau suspendu au niveau de la place d'Italie située bien plus haut que la rue Croulebarbe, proche de la vallée de la Bièvre. Donc c'est un projet urbain qui s'inscrit dans un plan masse d'un autre élève de Perret oublié qui s'appelle Adrien Brelet. Plus systématique et sans doute moins charmeur, le campus de Jussieu est néanmoins extrêmement intéressant par par l'idée de créer une entité monumentale, un peu à l'image de la Sorbonne, et de refuser la fragmentation des campus qui commencent à apparaître dans la région parisienne. J'opposerai à ces architectures métalliques, et j'en termine ici, d'autres recherches marginales, la recherche des matériaux nouveaux. En dépit de l'inventivité de la chimie française, il y a fort peu de projets qui travaillent avec les plastiques, et en tout cas, s'ils le font, c'est plutôt dans l'ordre, je dirais, de la communication et de l'architecture de salon, comme c'est le cas ici avec Shine et Coulon, que dans l'ordre de la grande production. Merci.